Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui aborder la question des ateliers de parfumeurs à Delos et en Campanie, fin de l'époque hellénistique et sous l'Empire romain, car la semaine dernière, nous avons examiné les procédés de fabrication des parfums utilisés dans l'Antiquité et les ateliers de parfumeurs de l'âge du bronze, pour lesquels j'ai exprimé un certain nombre de doutes. J'avais terminé en présentant les fouilles que j'ai effectuées sur les installations hellénistiques de Delos, grâce au soutien financier et logistique de l'École française d'Athènes, je me plais à le souligner, et j'avais montré comment et avec quels instruments on extrayait l'huile alimentaire. L'huilerie de la maison 3O du quartier du Théâtre, en fonction au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, était en effet équipée de deux pressoirs à levier, de cuvettes et de jarres servant à la décantation et de six jarres pour le stockage de l'huile. Il nous reste à voir maintenant en quoi diffère une installation d'extraction d'huile à parfum par rapport à cette installation que nous avons vue. Et cela nous permettra de mieux comprendre et d'interpréter les ateliers d'époque impériale que j'ai eu l'occasion de fouiller ces dernières années en Campanie, c'est-à-dire en Italie du Sud. Alors commençons par un retour à Delos et à l'examen des ateliers de parfumeurs que j'ai pu déceler et identifier principalement dans le quartier du Stade, où on a un très bel exemple, selon moi. Le quartier du Stade se situe dans la partie nord de l'île. Vous voyez ici le gros de l'agglomération avec le sanctuaire d'Apollon, l'Agora des Déliens, le quartier du Théâtre dans lequel nous nous trouvions la semaine dernière avec l'huilerie 3O qui est ici. Et le quartier du Stade, comme son nom l'indique, longe le stade qui est situé dans cette partie-ci et s'étend entre le stade et le rivage, rivage qui regarde vers l'île de Mykonos. Le stade forme donc une large terrasse au pied de la colline de Gamilin et il a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, peut-être dans la première moitié du IIIe siècle. La maison 1B, sur laquelle nous allons parler, est située ici, sur cette diapositive, dans la partie nord du quartier qui a été fouillé. En fait, le quartier s'étend beaucoup plus dans cette partie-là, mais cette zone n'a pas été fouillée. Vous voyez ici l'arasement des murs. Et cette maison 1B, c'est la maison la plus importante du quartier, en tout cas la plus grande. Et nous avions vu la semaine dernière que lors de la grande fouille effectuée en 1912-1913, André Plassard l'avait interprété comme un restaurant, car il avait trouvé donc cet ensemble de quatre foyers et qu'il interprétait comme des foyers pour faire la cuisine en grande quantité. Les fouilles que j'ai effectuées avec mon ami Michel Brunet en 1997 ont montré que dans le secteur que nous avons pu étudier précisément, évidemment, je ne prétends pas reconstituer tout l'histoire du quartier du Stade à partir de quelques sondages, mais disons que dans ce secteur-là, il y avait au moins quatre grandes phases d'occupation, suivies par une cinquième qui est en fait une réoccupation dans les ruines. Alors il y a une première phase dont nous savons très peu de choses, qui suit la construction du théâtre et sur laquelle nous avons très très peu d'éléments. Une deuxième phase est plus clair, enfin, si on peut dire, puisqu'on a quelques murs et la trace de four, vous voyez ici, coupé par les murs postérieurs. Ces quelques murs et ces fours sont rattachés à une phase antérieure au début de la domination athénienne, c'est-à-dire une phase postérieure, pardon, au début de la domination athénienne, c'est-à-dire après 166 avant Jésus-Christ. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est que ça correspond probablement à une maison, mais on n'en sait pas beaucoup plus. La présence de bols en céramique à parois fines sur le sol d'une pièce d'habitation et d'amphores Lambolia II qui sont produites le long de l'Adriatique, qui servaient à transporter du vin, qui ont été trouvées dans le comblement de ce four, nous indiquent que cette phase, c'est-à-dire la deuxième phase de cette maison, s'est prolongée jusqu'à la dernière décennie du IIe siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là arrive et construit, disons, l'état 3, qui est beaucoup plus clair. Et c'est lors de cette troisième phase que le péristyle est construit, ainsi que la salle F, à plan trapézoïdal, qui est celle qui nous intéresse particulièrement, une salle qui mesurait 11,40 m de longueur par 4,75 m à 5,60 m de largeur. Et c'est elle qui abritait des pressoirs et des fourneaux. En effet, à l'intérieur de cette pièce, on creusa de puissantes fondations pour fonder les pressoirs, et ces fondations sont liées aux fourneaux, donc on est certain de la contemporanéité. Donc vous voyez ici, sur cette diapositive, le péristyle avec la pièce F, et le mobilier qui est lié à la construction de cette phase, mobilier qui comprend principalement des céramiques de type West Slope, des bols à relief, de la céramique campaniana qui est fabriquée à Naples et à Ischia, de la céramique sigillée orientale Eastern Sigillata Hay, de la céramique commune italique, de la céramique culinaire à pâte micacée locale, des amphores de Cnide, et vous voyez ici les amphores avec leurs marques. On en a trouvé 5 exemplaires qui portaient des marques, des amphores de Rhodes, des amphores de Cos, des amphores italiques Lambolia II qui sont très courantes à Delos, des amphores italiques Dressel 1 et des amphores puniques de type Magna C2. Je ne rentre pas dans les détails, bien sûr, mais tout ça pour dire qu'on a un matériel suffisamment abondant pour être à peu près certain de la datation de la construction de cet ensemble, et grâce à cet abondant mobilier qui est à peu près compris dans le dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ et dans le début du Ier siècle avant Jésus-Christ. Donc, ces remblais nous permettent de dater la construction de la maison 1B telle qu'on la voit encore aujourd'hui et de son atelier au tout début du Ier siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, à cette phase de construction succède un état 4 qui voit la transformation totale du bâtiment. À ce moment-là, la pièce F, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, est ouverte. On crée une exèdre et on transforme l'ensemble en détruisant les pressoirs, mais en conservant les fourneaux. Les pierres des pressoirs sont rejetées dans la fosse de démantèlement, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs là que le fouilleur de l'époque les avait trouvés. Et les fourneaux donc sont conservés. Et on ajoute, qui bloque d'ailleurs une partie des fourneaux, une banquette maçonnée que vous voyez là. Et on construit dans le reste de la maison de longues banquettes maçonnées recouvertes d'enduits hydrauliques. Cet ensemble est complété par une transformation majeure qui a consisté à ouvrir une large baie dans le mur de la pièce F, vous voyez ici, et on a remplacé le mur par un ensemble de pilastres et de colonnes reposant sur un stylobate qui est lui-même refait. Vous voyez qu'il y a une modification importante de la fondation. Et on crée donc cette exèdre qui comprend donc deux piliers, deux colonnes ovales et deux pilastres carrés. Des remaniements donc ont eu lieu dans cette pièce et dans plusieurs pièces, comme je vous l'ai dit. Cette phase, selon moi, pourrait être datable de la période 88-69. En effet, comme vous le savez, Délos a été prise en 88 avant Jésus-Christ par les troupes de Mithridate. Il y a eu certainement des destructions, des changements de propriété, et ça a pu être à l'occasion de ces événements que la propriété a pu changer de main. Et les propriétaires, les nouveaux propriétaires, selon moi, ont dû décider d'attribuer l'ancienne maison qui était dotée, donc, selon moi, d'un atelier de parfumeur, à un autre usage. Alors, évidemment, c'est impossible même de dater aussi précisément des événements. Tout ce qu'on peut faire, c'est une reconstitution. Tout ce que je peux dire, c'est que tous ces événements se passent dans le premier tiers du premier siècle avant Jésus-Christ, et c'est avec prudence qu'on peut peut-être attribuer à la phase 88-69 ces modifications. Mais nous verrons que la maison étant abandonnée probablement après la prise de Délos par les pirates d'Athénodoros en 69 avant Jésus-Christ, on a finalement une fourchette de temps qui est très brève pour placer tous ces événements. Quoi qu'il en soit, donc, au cours de cette période, on a transformé la maison et on a supprimé les pressoirs en gardant donc les fourneaux. Alors, comme je vous l'ai dit, André Plassard y avait vu un restaurant, mais aussi parce qu'à côté des fourneaux, il y avait ces banquettes, et il imaginait que les gens venaient manger, en quelque sorte, en s'asseyant sur les banquettes. Pour ma part, je pense que la transformation de la maison n'est pas liée à la création d'un restaurant, mais plus probablement à la volonté de créer un établissement de bains privé, de gestion privée, mais destiné au public, et qui serait assez similaire à ceux qui ont été dégagés dans le quartier du théâtre, dans la maison 3N, où, dans une maison ancienne, on a, à la phase finale d'occupation de Délos hellénistique, on a créé donc un ensemble de baignoires, avec également une exèdre que vous voyez là, et des fourneaux, que vous en voyez un ici. Donc je pense que ce parallèle pourrait nous conduire à interpréter la phase 4 de la maison 1B du quartier du Stade comme étant un établissement de bains. Cet établissement, selon moi, n'a jamais été fini, car dans la pièce la plus septentrionale de la maison, on a trouvé un ensemble de colonnettes et de supports de table qui étaient livrés en quelque sorte, mais qui sont neuves, comme vous le voyez, qui avaient été livrés par un entrepreneur et qui n'étaient pas encore disposés. Donc je pense que c'était en cours de travaux lorsque Délos a été à nouveau prise et d'ailleurs incendiée en partie par les pirates d'Athénodoros. Après cette phase, la maison elle-même est totalement abandonnée et on a, dans une phase successive, alors que la maison est en ruine, l'occupation uniquement des pièces qui bordent la petite rue qui longeait le stade. On sait que c'est une phase postérieure à l'abandon, car les sols de ces pièces sont rehaussés, et pour rehausser ces pièces, on a notamment utilisé les colonnes du péristyle qui ont été donc abattues et qui ont servi à rehausser l'ensemble de ce secteur de la maison. Donc, il est vraisemblable que cette phase ultime est postérieure au pillage et à la prise de Délos de 69 et correspond à une phase où Délos continue à vivre, certes d'une vie diminuée, mais où on continue à avoir une certaine activité, notamment liée à la présence d'un embarcadère situé dans la partie nord de l'île qui permettait une communication aisée avec l'île de Mykonos. Donc, nous avons vu rapidement l'histoire de cette maison à la suite des fouilles que nous avons faites, et nous allons maintenant examiner plus en détail comment fonctionnait, selon moi, cette parfumerie, qui a fonctionné, donc, je vous le rappelle, au cours de l'état 3 de la maison, et donc probablement au tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ. D'abord, il a fallu équiper la pièce de deux pressoirs. Et pour les mettre en place, comme vous le voyez sur cette diapositive, on a entaillé le rocher et on a créé ici une fondation très puissante qui a servi à installer un ensemble de deux pressoirs avec quatre montants de bois. Vous voyez ici sur cette diapositive, sur ce plan, les montants de bois sont en grisé. Et entre les montants de bois prenaient place, bien entendu, les grosses pierres qu'on appelle les mets. Et on a exactement le même écartement. Les deux mets en marbre mesurent à peu près un mètre de longueur et de largeur, ils sont à peu près carrés, 38 cm d'épaisseur, et présentent, comme vous le voyez, une décoration assez caractéristique que nous avons vue déjà sur d'autres ensembles du quartier du théâtre et qui, selon moi, est assez caractéristique des mets de pressoirs de parfumeurs, car dans une parfumerie, le pressoir fait partie de la décoration, en quelque sorte. Je crois qu'il faut restituer sur ces pierres des pressoirs dits à coins, car en effet, les vestiges en place, les montants que nous avons vus ici, indiquent que l'on a affaire non pas à des pressoirs à levier, comme nous avons vu dans le cas du quartier du théâtre et de la maison 3O. Et alors on pourrait effectivement envisager la restitution d'un pressoir à vis qui porterait directement sur la matière à presser, mais il faut rappeler que selon Pline, au paragraphe 317 du livre 18, ces pressoirs dits grecs à vis direct, qui portent directement sur la masse à presser, n'ont été inventés que vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, et donc nous sommes quelque part comme 150 ans avant la date que l'on nous rapporte de cette invention. En revanche, si l'on émet l'hypothèse que la pièce F de la maison 1B était une parfumerie, la restitution d'un pressoir à coin irait parfaitement. Car Héron d'Alexandrie, vers le milieu du 1er siècle de notre ère, attribue ce type de pressoir au parfumeur. Et il en parle comme d'un pressoir courant. Il dit « La quatrième machine simple qui suit les précédentes est celle que l'on appelle le coin. Elle sert dans quelques-unes des préparations des parfumeurs. » Et le passage est extrait des Mechanica, livre 3, paragraphe 43. Papos, qui est un commentateur cité par Drachmann dans un article en 1963, écrit de son côté « Le coin rend de grands services dans les presses pour les parfumeries. » Or, ces pressoirs à coins sont surtout connus par des représentations dans quatre peintures trouvées à Pompéi et à Herculanum. Il s'agit d'un cadre de bois, que vous voyez ici dans une peinture de la maison des Vettii, dans lesquelles coulissent, sur les côtés du cadre de bois, il y a des fenêtres, et coulissent dans ces fenêtres des planches de bois, des madriers, entre lesquels on enfonce des coins à l'aide de maillets. Et les couffins remplis de pâtes d'olive ou de pâtes d'amande ou de la graine oléagineuse que l'on veut presser sont situés en dessous. La pression augmente évidemment au fur et à mesure qu'on frappe sur les coins et l'huile s'écoule dans un récipient. Nous avons donc plusieurs autres représentations qui sont relativement claires. Celle-ci vient de la Casa dei Cervi de d'Herculanum. Et on peut donc restituer, je crois, un dépressoir de ce type dans la salle F. Ici, ce que vous voyez sur cette diapositive, une reconstitution que j'avais proposé de faire dans le cadre d'une très belle exposition qui s'était tenue en 2009-2010 à Marimont, en Belgique, au Musée royal de Marimont, où on voit comment pouvaient fonctionner dans la réalité des pressoirs de cet ensemble. Il est vraisemblable que ces montants verticaux étaient reliés. Alors, comme vous le voyez ici dans cette reconstitution que je dois à mon ami Nicolas Brèche, vous voyez ici les montants verticaux qui sont très profondément ancrés dans les fondations et scellés dans le sol. Mais pour que l'ensemble tienne, il est vraisemblable qu'il fallait assurer une fermeture du cadre en posant au-dessus une poutre elle-même ancrée dans les murs. Ces montants latéraux, donc, comme sur les peintures de Pompéi et d'Herculanum, sont dotés de ces fenêtres dans lesquelles coulissent les madriers, en quelque sorte, que l'on écarte avec les coins. Le plateau de la presse, qui devait être d'un diamètre plus ou moins égal à celui de la canalisation circulaire, c'est-à-dire à peu près 70 cm de diamètre, écrasé, les couffins remplis d'olives broyées ou de toutes sortes de graines, comme je vous l'ai dit. Et lorsque l'huile était faite, on pouvait l'utiliser à côté dans l'ensemble constitué par les fourneaux. En effet, donc, le massif de fondation des pressoirs forme un retour avec celui des fourneaux, et ceux-ci sont construits en S. Vous les voyez ici d'un peu plus près. Ils mesurent 4,30 m de long par 1,20 m de largeur, et ils ont un tablier qui s'élève à 55 cm au-dessus du sol. À la base de chaque fourneau, on trouve, au nord et au sud, un orifice d'alimentation. Non, pardon, au nord, un orifice d'alimentation qui mesure à peu près 40 cm de hauteur et de largeur. Et au sud, un orifice d'évacuation des cendres qui lui fait environ 60 cm de hauteur par 40 de largeur. Les côtés ouest et est de l'ensemble des fourneaux sont également percés d'orifices carrés qui, selon moi, servaient à réguler le tirage de façon à maintenir le feu à une certaine activité. L'évacuation des fumées se faisait, alors vous voyez ici une vue supérieure des fourneaux avec les très grandes ouvertures qui, selon moi, sont très caractéristiques, et l'évacuation des fumées se faisait à l'arrière par des cheminées qui étaient ménagées dans le mur et qui devaient d'ailleurs utiliser à cette époque-là des carnots ou des boisseaux de céramique. Le tablier de chaque fourneau comprend donc deux grandes dalles de gneiss, vous voyez, de part et d'autre, et des petites pierres sur les côtés, laissant béants des orifices grossièrement circulaires d'un diamètre variant de 60 à 70 cm. La construction simultanée des pressoirs et des quatre fourneaux est un argument fort, à mon avis, en faveur de l'identification du local comme fabrique de parfums. En effet, le procédé le plus couramment utilisé, comme nous l'avons vu lors du cours de la semaine dernière, ce procédé est celui qui consiste à enfleurer les huiles en les faisant chauffer avec les pétales de fleurs ou les aromates dans de l'huile. Et cette opération d'enfleurage à chaud est bien représentée aussi sur plusieurs peintures de Pompéi, comme celle de la Maison des Vétilles, comme celle de la Villa Impériale et sur la peinture de la Casa dei Cervi di Ercolano que nous avons vu tout à l'heure. Dans les trois cas, on peut voir un amour, et on va revenir sur celle de l'herculanum parce qu'elle est très caractéristique, on peut voir donc un amour qui, au-dessus d'un foyer, ici c'est un foyer mobile, mélange les ingrédients avec l'huile au fur et à mesure qu'on le fait chauffer. Ce type d'opération d'enfleurage qui est décrite à plusieurs reprises par Théophraste et évoquée par Dioscoride a été pratiquée jusqu'à une époque très récente, jusqu'au XIXe siècle et même au début du XXe siècle, dans les ateliers de parfumeurs traditionnels, comme par exemple à Grasse. Et vous voyez ici exactement le même type de fourneau que nous avons à Delos, avec cette surface assez vaste, et surtout, ce qui est très caractéristique, les très grosses ouvertures où l'on posait des chaudrons en cuivre, chaudrons remplis d'eau, à l'intérieur desquels on faisait chauffer au bain-marie les huiles. Donc, cet établissement très fonctionnel que nous revoyons à nouveau et bien conservé nous donne un modèle de ce que devait être une parfumerie à l'époque hellénistique. Et c'est ce modèle que nous allons retrouver dans des conditions de conservation pas toujours aussi bonnes, mais qui permettent quand même une certaine interprétation. C'est ce modèle que nous allons retrouver dans l'Italie du Sud et en particulier en Campanie, pour laquelle j'ai déjà signalé l'importance de la production des parfums qui était soulignée par Pline et qui est également attestée par de nombreuses inscriptions de parfumeurs sur pierre. Archéologiquement, on connaît trois sites qui ont livré des parfumeries dans cette région. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que cette parfumerie du stade est liée bien sûr au stade lui-même, où on avait sûrement une consommation d'huile et peut-être d'huile parfumée, et surtout au gymnase qui est juste à côté, et où là évidemment se trouvait une clientèle potentielle et importante, et donc ça explique probablement la localisation de cette parfumerie en question. Donc, lorsque nous arrivons en Campanie, nous avons principalement trois sites qui ont livré des vestiges de ce type, c'est-à-dire Pompei, Herculanum et Pestum. Cette répartition est liée évidemment à la production elle-même de parfums, mais aussi à l'état de conservation, à l'état de dégagement des vestiges qui permet une vision d'ensemble. Il est tout à fait vraisemblable que bien d'autres villes de cette région ou de l'Italie possédaient des parfumeries, mais jusqu'à présent, elles ont été difficile ou impossible à localiser car l'état de conservation ne le permet pas. Je dois dire que pour Pompéi même, comme nous allons le voir, il a fallu longtemps avant qu'on puisse identifier ces vestiges car, par exemple, l'une des parfumeries sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui est la parfumerie située à l'adresse 7-4-24-25, a été dégagée dans les années 1820 et n'a été identifié qu'à partir des années 1980. Donc, vous voyez qu'il y a écoulé 150 ans avant qu'on comprenne à quoi on avait affaire. En effet, lorsqu'on parle de Pompéi, et au début de recherches sur les parfums antiques, on a surtout utilisé le résultat des fouilles pour le côté illustratif des peintures. C'est par exemple le cas dans l'ouvrage de Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kunst der Griechen und Romain, paru à Leipzig en 1912, et qui, après avoir cité les sources littéraires et épigraphiques disponibles sur les parfumeurs, se sert surtout des peintures pour décrire les procédés. Il évoque notamment la peinture trouvée dans la région 7, insula 7 et à l'adresse numéro 5, qui avait été publié quelques années auparavant par Trent Dellenburg dans Archaeologische Zeitung 1874, une peinture qui aujourd'hui malheureusement a disparu, mais qui est du même style et du même type que celle de la maison des Vétilles. On peut la commenter brièvement. On voit ici un dessin de l'époque. Vous reconnaissez sur le côté le pressoir à coins, très caractéristique, avec les petits cercles qui indiquent les coins, l'amour qui est en train de frapper sur les coins pour faire l'huile. Ensuite, on a toute la phase de préparation des mélanges, avec un amour qui écrase les ingrédients dans un mortier et un autre qui est en train de verser un liquide qui va évidemment l'huile qui vient du pressoir. Ici, le comptoir de vente, avec la traditionnelle armoire où le parfumeur conservait les flacons qu'il allait vendre. Et sur la table, sur le comptoir de vente, on voit des flacons de diverses contenances et la cliente qui vient essayer les parfums, suivie de sa servante qui tient, on le voit ici, une bourse pour payer les parfums que cette riche aristocrate, visiblement, achète. Donc, un schéma iconographique qui est bien clair et que l'on retrouve principalement aujourd'hui dans la peinture de la maison des Vétilles, qui est évidemment conservée et qui est encore plus belle. En fait, il faut attendre 1979 pour que Wilhelmina Jasemski publie un ouvrage qui est tout à fait essentiel pour Pompéi, qui s'appelle « The Gardens of Pompeii, Herculaneum and Villas Destroyed by Vesuvius », qui est paru à New Rochelle aux États-Unis. Et dans cet ouvrage, elle présente les résultats des fouilles qu'elle a pu effectuer dans les jardins des maisons de Pompéi. Grâce à une méthodologie qui a fait école, qui consiste à mouler les racines des végétaux et à coupler cette méthode donc de moulage avec des analyses carpologiques, c'est-à-dire les analyses de petites graines qui sont restées, et des analyses polliniques. C'est ainsi que, surtout dans la région 1 et dans la région 2 de Pompéi, c'est-à-dire entre, disons, la zone des théâtres et la zone de l'amphithéâtre, c'est ainsi qu'elle a pu restituer des champs de vignes, des plantations d'oliviers ou des cultures horticoles. Elle s'est intéressée en 1972 à la fouille du jardin de la maison d'Hercule, qui est située à côté de la grande palestre que vous voyez ici, dans la région 2, Insula 8, et adresse numéro 6. Elle y a mis en évidence, grâce à ce système de moulage, des plantations d'arbres et de diverses essences que vous voyez sur cette diapositive d'époque, qui est une photo qui est faite en ballon. Ce sont tous les petits points blancs que l'on voit qui correspondent en fait au moulage des trous avec du plâtre. À la suite de ses travaux, elle a interprété cet ensemble comme étant le jardin d'un parfumeur et la maison d'un parfumeur. Cette hypothèse, dont nous allons voir que je conteste, a été ensuite reprise sans aucune distance critique dans un petit ouvrage qui est disponible encore, parce qu'il y a eu une nouvelle édition en 2007, de Giordano e Casale, qui s'appelle Profumi e acconciature in Pompei antica, qui est un ouvrage de vulgarisation, mais qui contient quand même quelques annotations intéressantes, malheureusement souvent sans suffisamment de critiques. Et l'interprétation de Wilhelmina Jasemski a été aussi suivie sans aucune discussion, dans un article d'Antonio De Simone qui s'appelle « Le insule su via di Nocera, l'insula 8 della Regio 2 publié dans la revista di studi Pompeiani 1988, au moment où la surintendance a repris le complément de fouilles dans cette zone et surtout la mise en sécurité et la restauration de ce secteur. Donc, dans la littérature archéologique, c'est en quelque sorte un fait établi que personne ne discute. En fait, cette identification est fondée principalement sur l'autorité de Wilhelm Jerzymski, qui elle-même se fondait en quelque sorte un peu sur son intuition. Car les analyses de pollen qu'elle a fait effectuer ont montré qu'il y avait effectivement 31 types de pollen différents, dont d'ailleurs 80% proviennent d'oliviers, et elle avait d'ailleurs pu mettre en évidence ici la racine, ici, à deux endroits, les racines d'oliviers qui sont très caractéristiques parce que très tourmentées. Également, elle a mis en évidence 11 trous de racines d'autres arbres, probablement des arbres fruitiers, et elle avait constaté que le jardin était pourvu d'un système d'irrigation par canaux et qu'il y avait des plantations faites dans ces petits pots, vous voyez, qui ont des trous qui sont en fait des pots de plantation. Mais bien que les analyses de pollen n'aient pas donné d'indication sur les cultures florales, Wilhelm Jerzymski affirme que le jardin servait à la culture des fleurs pour le parfum. Elle dit: We have seen that the flower ground at Pompeii in antiquity were used for two purposes, for making perfume and for garlands. Et donc pour faire des parfums et pour des couronnes. Elle poursuit en disant: Il est peut-être significatif qu'un large nombre, un grand nombre de flacons de parfums ont été trouvés dans la maison partiellement fouillée à laquelle appartient le jardin d'Hercule. Et elle ajoute: Nous avons trouvé des fragments de flacons à parfum en verre dans le jardin, en verre aussi bien qu'en terre cuite. D'autre part, il y a une preuve, selon elle, que des oliviers étaient plantés et poussés dans le jardin et qui étaient utilisés donc pour faire de l'huile utilisée comme base pour les parfums. Et je finis la citation. Par ailleurs, il y a une mosaïque à l'entrée de la maison qui indique « tras credo », c'est-à-dire « je ferai crédit demain », ce qui semble indiquer que la maison comportait une boutique de vente. Et elle conclut en disant: est-ce qu'il est possible que cette maison soit aussi un meeting place, un lieu de réunion pour ceux qui étaient engagés dans la production et le commerce des parfums? Les membres de cette corporation avaient peut-être l'habitude de se réunir à cet endroit-là spécialement pour des fêtes. Et elle en voulait comme indice la découverte de pièces d'or qui ont été trouvées dans le jardin et qui indiqueraient que les propriétaires avaient des moyens relativement importants et qu'ils avaient suivi les conseils des agronomes antiques, obtenant en quelque sorte une honnête aisance dans la production des fleurs dans son jardin et la production des parfums. Alors je crois que quelle que soit l'admiration que l'on porte au travail de Wilhelm Jerzymski, qui, pour beaucoup de façons, a révolutionné notre manière d'étudier et de fouiller les espaces urbains non bâtis, c'est-à-dire les jardins, les cours, il faut quand même bien reconnaître que son interprétation du jardin d'Hercule et de la maison attenante va très au-delà de ce que les observations faites sur le terrain autoriseraient. Je rappelle que dans les analyses de pollen, il n'y avait pas de pollen de fleurs. Donc dire qu'on a utilisé le jardin pour faire pousser des fleurs employées en parfumerie est déjà abusif. D'autre part, comme nous l'avons vu sur cette photo, le jardin est petit. Or, il faut des milliers de fleurs pour produire du parfum. Avec les techniques modernes, il ne faut pas moins de 4 tonnes de pétales pour un litre d'huile essentielle de rose, par exemple. Un rosier ne peut produire plus de 1 kilo. Il faut donc au moins 4000 plants. Ce qui suppose donc que ce type de culture ne se faisait pas, ne pouvait pas se faire à l'intérieur des villes, dans des jardins, mais bien en plein champ, en dehors des villes. Troisièmement, la maison ne comporte aucune installation qui soit caractéristique des parfumeurs, comme celle que nous avons vue à Delos, c'est-à-dire il n'y a pas de pressoir, il n'y a pas de fourneau d'enfleurage. Enfin, l'argument qui consiste à dire que la présence de flacons à parfum a été trouvée dans le... et qu'il y avait des flacons à parfum dans la maison est, selon moi, totalement dénué de pertinence. Car les flacons individuels ne sont pas forcément des indices de lieu de production, mais bien de lieu de consommation. Ce ne seraient que des grands flacons qui seraient caractéristiques. En effet, dans une parfumerie, on s'attend à trouver des petits flacons destinés à la vente, mais aussi des grands flacons destinés à conserver les parfums que l'on met, que l'on détaille et avec lesquels on remplit les petits flacons. Par contre, les petits flacons sont bien le témoignage de l'usage des parfums. Et le fait qu'elle ait trouvé un certain nombre de flacons, alors, il n'y a pas de statistiques véritables et tout ça se fonde plus sur une impression que sur une réalité. Je crois qu'en réalité, il n'y avait pas autant de flacons à parfum que ce qu'elle veut bien le dire. Elle publie quelques photos de ce type-là. Le fait qu'il y ait eu quelques flacons à parfum dans le jardin n'indique pas que nous ayons affaire à une maison de parfumeurs, mais probablement à une maison où, dans le triclinium d'été que vous voyez ici, hein, qui est au milieu du jardin, avec les trois lits de banquet et la table au milieu, c'est simplement une maison où on donnait des fêtes. Et évidemment, dans une fête, on se parfumait. Et ce qui nous reste, c'est simplement les restes de ces fêtes. Quant à la découverte de pièces d'or, elle n'a évidemment aucune signification particulière, puisque, comme vous le savez, lors de la fuite éperdue des habitants de Pompéi au moment de l'éruption, ils ont emporté avec eux leurs biens personnels et ces biens se sont dispersés dans divers endroits sans être forcément liés à la maison elle-même. Donc, je crois qu'il faut rendre justice à Wilhelm Jasinski de tout le travail qu'elle a fait sur les jardins. Elle a interprété notamment, nous aurons l'occasion de le voir dans une année future, elle a réinterprété de façon extrêmement brillante des secteurs de la ville où il y avait réellement des plantations de vignes probablement relativement importantes. Mais je crois que dans ce cas précis, elle est allée trop loin dans l'interprétation et il faut absolument bannir dans la littérature cette possible parfumerie dans la région 2, insula 8 de Pompéi. Mais il y avait effectivement de vraies parfumeries à Pompéi et il faut lui rendre quand même cette justice qu'elle ayant attiré l'attention sur la production des fleurs qui devait être courante non seulement dans les jardins, mais je le crois dans les champs autour de la ville, elle a proposé d'interpréter le pressoir de la région 7 sous la 4 à l'adresse 24-25 comme étant un pressoir de parfumeur et c'est elle la première qui l'a fait. Cette culture des fleurs à Pompéi dans la région évidemment répond complètement aux recommandations des agronomes déjà chez Caton dans le De Agricultura en 8-2 puis chez Varron au livre 1, paragraphe 16, qui dit qu'il est profitable de cultiver des roses, des violettes à grande échelle en ville et dans les jardins, et surtout chez Pline, dans le livre 21, presque tout au long du livre, et notamment entre le paragraphe 1 et le paragraphe 22, qui insiste sur la culture des roses, des lys, des violettes, mais aussi du genêt, du lierre, dont on faisait les couronnes, mais aussi qu'on utilisait pour enfleurer les parfums. Il est dit très clairement pour la rose, en 25, au livre 21, paragraphe 15. Il le dit aussi pour le lys, dont il dit qu'on fait le lirinone, en 21, paragraphe 22, et pour l'iris, au livre 21, paragraphe 42. Donc, tout ça, c'est sur cet aspect très important et certainement, d'un point de vue économique, très rentable, que Wilhelm Jasiński a attiré l'attention et donc en proposant de voir dans ce pressoir anciennement fouillé un pressoir à parfum. Cette presse est située dans la Via dello Augustali, c'est-à-dire dans cette rue qui est immédiatement au nord du forum. Et elle avait fait simplement, Wilhelm Jasiński avait fait une mention dans son ouvrage de cette possibilité, et l'hypothèse a été ensuite développée avec brio par David Mattingly dans un article intitulé « Painting, Presses and Perfume Production at Pompeii » paru dans Oxford Journal of Archaeology en 1990, page 33-56. Le point de départ de Mattingly est l'analyse détaillée des peintures de Pompéi et d'Herculanum que nous avons déjà l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises, qui représentent les parfumeurs au travail, et notamment donc, la peinture de la maison des Vettii. Donc ici, sur cette diapositive, vous avez une vue de la maison des Vettii qui est dans un état de conservation exceptionnel, fouillée à la fin du XIXe siècle. Malheureusement, aujourd'hui, depuis presque une dizaine d'années, en cours de travaux de restauration, car la maison avait subi des dommages à la suite d'une presque un siècle de visites continues. Et donc, on attend sa réouverture. Donc, vous voyez ici le jardin. Et dans le cul, c'est-à-dire dans la pièce, dans la grande salle à manger qui ouvre sur le jardin, il y a des frises très intéressantes qui représentent des amours en train d'accomplir des activités techniques et de nature économique. Alors, on a aussi bien la foulonica, c'est-à-dire le foulage des tissus, la vendange, des amours qui sont en train de forger ou peut-être de faire des bijoux, etc. Et il y a une frise extrêmement bien claire sur la fabrication des parfums. Et vous voyez qu'on a exactement le même schéma que dans la peinture perdue à la fin du XIXe siècle, avec le pressoir à coin ici, la phase de l'enfleurage sur le fourneau symbolisé par ce trépied et ce feu qui est ici, la phase du mélange des ingrédients dans un mortier, le comptoir de vente qui est particulièrement intéressant parce qu'il présente d'autres instruments typiques du parfumeur que sont la balance que tient le petit amour, que sont les recettes, et donc sur le comptoir de vente il y a un papyrus, et on voit derrière l'armoire avec les flacons, ça marche plus, et la cliente en train d'essayer le parfum, suivi de sa servante qui, dans cette circonstance, ne porte pas une bourse, mais porte un éventail. Donc on peut penser que la scène se produit pendant l'été. Alors il y en a d'autres. Une autre qui est conservée au Fitzwilliam Museum de Cambridge, que vous voyez ici, qui représente un pressoir à coin, et donc qui est seulement un fragment d'un ensemble certainement du même type. Et enfin, celle que nous avons déjà vue de la Casa dei Cervi à Ercolano, qui a été trouvée le 13 août 1748, qui a d'abord été interprétée comme une presse à vin, d'ailleurs, assez curieusement. Et on imaginait, je suppose, que l'on faisait cuire le defrutum dans le fourneau qui est à côté, et puis qui a été enfin interprété par tous les auteurs comme une presse à huile. Mattingly a souligné que cette presse à coin, dont nous avons vu à plusieurs reprises, ne fait pas partie de l'équipement rural qui est décrit par les agronomes. Et effectivement, on ne le trouve jamais décrite dans les installations, par exemple chez Caton ou chez Columel. Et il a souligné que le vin et l'huile étaient produits partout, dans des presses à levier, et partout, et singulièrement, dans toutes les fermes qui étaient situées aux alentours de Pompéi et d'Herculanum, et qui étaient ensevelies par le Vésuve, et dont nous avons donc une image très claire. Et il a donc bien montré que l'utiliser de ces petites presses urbaines était de faire de l'huile, particulièrement en été, lorsque les huileries normales étaient fermées, afin d'obtenir donc une huile de base qui avait une basse viscosité et qui ne nécessitait pas de produire de grandes quantités. Et pour ce faire, donc, pour faire cette huile, il ne fallait pas de grosses installations de broyage, on pouvait se contenter de broyer les olives dans un mortier. Mattingly a rappelé les découvertes d'autres mets de pressoir dans la ville, aux abords du forum, dans une maison située en 7451, sur laquelle on a très peu de renseignements, parce que ce sont toujours des fouilles anciennes, et une autre dans le péristyle au nord de la maison des capitali dipinti, qu'on appelle aussi Casa di Arianna, sur laquelle nous reviendrons, une autre en 7-14-14, et tous ces ensembles sont évoqués dans un ouvrage de Michele Ruggiero qui s'appelle « Dalle eruzione del Vesuvio nell'anno 79 » qui est paru dans « Pompei et la ragione sotterrate del Vesuvio » en 1875 à Naples. Il y avait donc autour du forum plusieurs de ces installations que malheureusement les fouilles anciennes ont mal localisées et évidemment ont mal interprétées. Il y en avait aussi une dans la boutique située en 7, 4, 24, 25 que nous avons déjà vu à plusieurs reprises. Et c'est dans cette boutique, c'est sur cette boutique qu'il insiste particulièrement. Amedeo Maiori, en 1927, et nous allons le revoir, avait fait reconstituer un pressoir à vis. Et selon Mattingly, il s'est trompé, étant influencé par l'application brutale, si on peut dire, aux instruments de parfumeur, d'un type d'appareil qui était surtout connu dans les fulloniquets, c'est-à-dire dans les fouleries où on lavait et on préparait les tissus et les vêtements. Et notamment, selon Mattingly, Maiori aurait été influencé par la très célèbre peinture de la fulonica dite de Veranus Ipsaeus, que vous voyez ici, qui est conservée aujourd'hui au musée de Naples et qui représente une presse à deux vis qui écrase, donc qui presse des tissus. Selon Mattingly, bien que la presse à vis centrale était déjà connue au 1er siècle de notre ère, nous l'avons vu à propos de Pline, il est tout à fait illégitime d'en conclure qu'elle était universellement répandue dans le troisième quart du 1er siècle. Et Mattingly considère donc que le témoignage des peintures assure que les presses à vis étaient bien utilisées par les teinturiers, mais pas du tout par les parfumeurs. Et il propose donc de restituer une presse à coin à la place où Maiori avait reconstitué une presse à vis. La donne sur ce point précis a changé totalement grâce aux travaux de Nicolas Montex. Au cours des recherches préparatoires à sa thèse de doctorat qui a été publiée l'année dernière sous le titre « Les lieux de métier, boutiques et ateliers d'Herculanum » paru à l'École française de Rome, Nicolas Montex a examiné l'ensemble de la documentation concernant les boutiques d'Herculanum et il s'est notamment fondé non seulement sur la grande publication d'Amedeo Maiori qui s'appelle « Ercolano e nuovi scavi » paru en 1958, mais surtout sur les archives de fouilles qui étaient tenues par les contremaîtres qui suivaient la fouille. Et il s'est rendu compte à plusieurs reprises qu'il y avait une discordance nette entre ce que publie Maiori dans son célèbre ouvrage et ce que les contremaîtres avaient observé. Cette discordance vient de deux faits. La première, c'est que Amedeo Maiuri, comme vous le savez, était le très célèbre surintendant de Naples et il avait en charge un secteur énorme, allant des champs phlégréens à Pompéi en passant par Herculanum. Et même si Herculanum était l'un de ses lieux favoris de recherche, était en quelque sorte sa vraie fouille, puisque c'est lui qui, grâce au fond débloqué par le régime fasciste, c'est lui qui peut dégager à l'air libre un secteur entier de la ville d'Herculanum, alors que jusqu'alors on avait exploré la ville par des tunnels. Même s'il y va relativement souvent, il n'est pas en permanence sur le terrain. Alors, évidemment, il n'est pas là pour observer en permanence. D'autre part, l'autre discordance vient du fait que les contremaîtres et les ouvriers, voulant flatter le grand savant, avaient tendance à faire des mises en scène et donc à rassembler des objets pour que ça lui fasse plaisir, en quelque sorte. Et donc, assez souvent, on a une discordance très nette sur le lieu de provenance des objets, sur ce qui a été trouvé, etc. En ce qui concerne la presse à vis carbonisée, qui a été trouvée dans la maison 3, dans la maison de la région 3, en dessous de la 10, et donc à l'angle nord-est de la Casa del Tramezzo di Legno, que un certain nombre d'entre vous ont certainement visité. En ce qui concerne cette presse, Maiuri l'avait publié comme une presse de foulon, toujours pour la même raison, car ça ressemblait en quelque sorte à la presse de Veranus Ipsaeus. Et personne n'a remis en cause cette identification qui semblait acquise, car on n'avait finalement pas tellement de raisons d'en douter. Sauf que Nicolas Montex, grâce à ses recherches dans les archives, a pu prouver que le pressoir était en fait destiné à extraire un liquide. Car ce que Maiuri n'a jamais dit, et peut-être même jamais vu finalement, c'est qu'il y avait au pied de la presse une cuve qui a été immédiatement rebouchée et comblée. Cette petite cuve n'est connue que par les archives, et il faudrait évidemment enlever le sol qui a été construit par la suite pour permettre aux visiteurs de visiter. Il faudrait l'enlever pour s'en assurer, éventuellement faire des analyses. Par ailleurs, Montex a pu constater que la presse elle-même comportait des rigoles sur le plateau de presse en bois qui, évidemment, servaient à canaliser le liquide qui s'écoulait dans la petite cuve. Il en tire donc la conclusion que la presse publiée comme une presse de foulon était bien une presse pour extraire un liquide. Vu le type, vu l'emplacement, il est probable à nouveau que l'on a affaire à une presse de parfumeur. On a donc la preuve que, en 79 à tout le moins, les pressoirs à vis étaient utilisés pour extraire de l'huile dans des ateliers urbains, et notamment, je le crois, dans les ateliers de parfumeur. Et d'ailleurs, Pline, qui est le contemporain exact, est indiqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au paragraphe 317 du livre 18, que ce type d'appareil est d'invention récente. Il dit précisément, au cours des 22 dernières années, on a inventé de petites presses et un bâtiment de pressoir moins grand. Un fût plus court étant placé verticalement au milieu, on presse des plateaux appuyés de tout leur poids sur le marc et l'on édifie sur les pressoirs un blocage de maçonnerie. Là, en l'occurrence, on n'a pas affaire à une presse qui est intégrée dans un mur, mais dans un système qui forme un cadre très, très solide qui est ancré dans la partie basse, dans les fondations, un peu comme ce que nous avons vu à Delos. Dans le cas du pressoir donc, qui nous occupe, celui de 7-4-25, étant donné sa configuration, je crois qu'on ne peut pas trancher entre un pressoir à vis ou un pressoir à coin. Mais à Pestum, comme nous allons le voir tout à l'heure, contrairement à ce que j'avais pensé au départ, dans la publication que j'avais faite dans les mélanges de l'École française de Rome, la série Antiquité en 1998, page 419-472, J'avais hésité entre les deux hypothèses et fini par trancher pour les pressoirs à coin, principalement influencé par le texte de Héron d'Alexandrie et par l'argumentation de David Mattingly qui disait que ce n'est pas parce qu'on a une invention quelque temps auparavant qu'elle est immédiatement répandue partout. Et maintenant, je pense très fermement que, comme nous allons le voir tout à l'heure, on n'a pas affaire à un pressoir à coin, mais à un pressoir à vis, tout simplement parce que, étant donné la disposition de l'appareil contre le mur, on ne peut pas frapper des deux côtés. Et j'ai d'ailleurs fait une rectification sur ce point en 2009 dans l'article que j'ai écrit avec Nicolas Montex qui s'appelle « Les parfumeries en campagne antique », publié dans un ouvrage collectif intitulé « Artisanat antique d'Italie et de Gaule, mélange offert à Maria Francesca Bonaiuto », paru à Naples donc en 2009. Et dans cet article écrit en commun, nous avons abouti à la conclusion que, effectivement, les presses à vis étaient courantes dans les parfumeries au cours du troisième quart du premier siècle de notre ère, et que même si, par convention iconographique, on continuait à représenter les presses de parfumeurs comme des presses à coin, c'est parce qu'elles étaient emblématiques de la profession et non pas forcément parce qu'on les utilisait encore. Et on voit donc que dans ce cas précis de la diffusion du pressoir à vis, la diffusion est beaucoup plus rapide que ce que l'on pouvait imaginer, influencé comme nous sommes par les théories primitivistes. Et nous nous retrouvons dans le schéma que j'ai évoqué au cours de mon exposé du mois de mai à propos de la diffusion des moulins hydrauliques. On voit bien que quand une invention est disponible et n'est pas extrêmement coûteuse, elle se diffuse relativement rapidement, voire très rapidement, et notamment en Italie. En fait, c'est l'article de David Mattingly qui m'a incité à revenir examiner de plus près l'installation de la région 724 de la Via des Augustali. Et c'est dans cette boutique que j'ai recommencé des fouilles à partir de 2001 et 2002. Et c'est de ces fouilles dont je vais vous parler après que nous ayons fait une petite pause de 5 minutes.